Bonjour. Je voulais qu'aujourd'hui nous puissions examiner l'une des grandes auto-présentations de l'histoire, des auto-présentations. Comme je me présente, je dis quelque chose comme je suis Jean, ou selon les contextes, je pourrais inclure quelque chose à propos de ma famille, de mon travail, de l'endroit où je vis, de ce que j'aime faire. C'est ainsi que je me présente. La dernière fois que j'ai prêché, j'ai commencé à présenter, à me présenter en donnant mon numéro de carte de crédit. C'était une erreur. Mais ce que je voudrais que nous puissions faire, c'est d'écouter Jésus se présenter lui-même. Il prend son auto-introduction à un tout autre niveau. Et Luc utilise une prophétie de il dit que lui-même, il est l'accomplissement de cette prophétie qu'il prend dans l'Ancien Testament. C'est soit un moment vraiment fou, soit il proclame la vérité qui change le monde. Et c'est ainsi que l'évangile de Luc dans le Nouveau Testament rapporte que Jésus a été annoncé comme Messie. Le Sauveur du monde, il vient au temple de Nazareth, s'élève pour lire les Écritures. Alors, écoutez ceci, Luc 4, 18, 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Et puis il a roulé le parchemin, il l'a remis, et tous les yeux des gens qui étaient au synagogue étaient fixés sur lui. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. J'aime penser à cela comme une version ancienne d'une chute de micro. Vous savez, lorsque vous faites une grande déclaration, j'aimerais voir le pasteur le faire et vous faites faites tomber le micro et vous partez, vous dites j'ai fini. Et c'est ce que Jésus fait. Il s'assoit et puis il s'élève, il dit je suis celui que vous attendiez, je suis le sauveur du monde. Vous pouvez parier que cela a pris les auditeurs dépourvus. Combien de fois avaient-ils entendu lire cette écriture dans leur synagogue? Souvent, en fait, cela les a rendus vraiment fous. Ils ne croyaient pas à ces affirmations. Ils avaient vu grandir. C'est sa ville natale. Ils ont chassé Jésus de la ville avec l'intention de le jeter du haut d'une falaise, mais il s'est enfui. Jésus lit le livre d'Ésaïe. Il lit un segment d'une parole prophétique plus longue sur les sauveurs du monde. Et à venir. Et il dit clairement qu'il est le sauveur prédit du monde. Et nous allons voir sur ce passage un peu plus tard, c'est là où la prophétie vient. Mais maintenant, regardons ce que Jésus est en train de dire. On doit vraiment tirer l'attention sur ce qu'il est en train de dire. Et il proclame qu'il est le sauveur du monde, c'est son identité et une chose importante de sa mission. Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, la liberté aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, la libération de l'oppression pour proclamer l'année de faveur du Seigneur. Il y a une idée fondamentale avec laquelle je veux que vous partiez avec aujourd'hui, que vous participez. Jésus voit et aime les gens qui sont harcelés et impuissants et nous invite de faire la même chose. Le cœur de Dieu pour les pauvres est évident dans toute la Bible. Il y a environ 300 passages différents dans la Bible qui parlent de l'attention et de l'amour de Dieu pour les pauvres. Et il nous invite à avoir ce même soin. C'est clair à partir de ces passages où Jésus est en train d'annoncer qu'il est le Seigneur du monde, le Sauveur du monde, mais une part de sa mission, c'est de rencontrer les besoins de ceux qui sont dans le besoin. Et qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Nous ne sommes pas les sauveurs du monde, ça c'est sûr. Mais laissez-moi vous rapporter, rappeler quelques principes importants. Notre invitation est d'être des vice-rois de Dieu. J'ai utilisé ces termes en juin quand j'ai parlé de, j'ai enseigné sur Romains. J'ai été utilisé, nous avons des joies et les privilèges d'être des enfants du roi. Et avec cela viennent les responsabilités, les autorités qui nous sont accordées par le roi. Donc si le Saint-Esprit oint, donne pouvoir et dirige Jésus pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres et la liberté pour les captifs et panser les cœurs brisés. Le Saint-Esprit a la même onction, pouvoir et direction pour nous. Alors, non seulement nous sommes des vice-rois de Dieu et nous devons donc accomplir l'œuvre que Jésus a accomplie, mais nous sommes en fait très clairement instruits à plusieurs reprises dans la Bible. Non seulement de dire des paroles de vérité, mais aussi d'être les mains et les pieds de Jésus. Un exemple qui vient de 1 Jean 3, 16, 18. Il dit, voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des paroles, mais il se manifeste sa réalité par des actes. Quelque chose que je voudrais vous rappeler alors que nous allons continuer de parler, le premier est celui-ci. Prêcher et prononcer les paroles de l'Évangile est une partie essentielle de la proclamation de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres. Les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu pour eux. Nous devons continuer à parler. Souvenez-vous de cela. La deuxième chose est celle-ci. Dieu nous invite à aller au-delà des mots et aussi à prendre activement soin des gens, à rechercher la justice, à travailler pour la liberté de l'oppression et apporter la guérison et aider à réduire la pauvreté. Nous devenons les mains et les pieds de Jésus. La troisième chose, c'est que l'Esprit du Seigneur joue un rôle important. Jésus lui-même identifie au début, il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Jésus lui-même identifie que l'Esprit est important et essentiel. Et si tu es croyant, ce même esprit vit en nous, c'est merveilleux. Nous devons dépendre du Saint-Esprit pour la puissance et apporter la transformation dans la vie des gens qui sont pauvres, qui sont oppressés. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est passer le temps et voir comment est-ce qu'on peut faire cela pratiquement, vivre cette invitation que Dieu a pour nous, pour aimer ceux qui ont des besoins significatifs. Alors, comment va notre monde aujourd'hui? Eh bien, il y a des très bonnes choses et des très gros défis. Quand je pense aux grands problèmes de ce monde, il y a beaucoup de millions de réfugiés qui sont forcés, déplacés de force dans le monde. À peu près 800 millions de personnes vivant avec moins de 2 dollars par jour. Près de 9 millions de personnes mourant de faim chaque année. Plus d'un milliard de personnes qui n'ont aucune connaissance de Jésus. Et près de 50 millions de personnes piégées dans l'esclavage moderne. Il est facile d'être simplement submergé, et de ne pas savoir où commencer ou s'immobiliser, de ne pas s'engager d'une seule façon, par crainte de ne pas avoir d'impact. Mais il y a un principe que j'entends parfois qui dit ceci, qui est valable pour tout le monde. Fais pour un ou deux ce que tu aimerais pouvoir faire pour tout le monde. Et cela changera une ou deux vies et la vôtre en fera partie. Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que Seigneur puisse remue-nous, active-nous, utilise-nous pour proclamer ta parole, vive nos cœurs dans la compassion, que nous soyons réellement une famille en mission avec Jésus, tout le monde, tous les jours et partout. Avec un monde qui a tant de besoins, que faisons-nous? Je suis sûr que Dieu aura, si on lui demande, des invitations spécifiques pour chacun de nous à s'engager pour la liberté, aider ceux qui en ont besoin. Nous devons demander et Dieu nous parlera. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est me concentrer sur un besoin spécifique et un ministère très spécifique afin que nous puissions chacun repartir avec une image claire d'une manière de vivre cette partie de notre appel. Ce n'est pas seulement le seul moyen, et bien sûr, je ne dis pas que vous devez vous engager avec ce ministère, sinon vous avez raté tout le point de ce matin, mais je veux vous aider à réfléchir à ce qu'est la pauvreté, à certains besoins dans le monde, puis vous donner l'occasion d'envisager, d'y répondre d'une manière concrète. Le ministère que nous allons concentrer aujourd'hui s'appelle Compassion Canada. Je tiens cette organisation en très haute estime. J'ai visité sept centres de compassion au Brésil. J'ai eu la joie de rencontrer l'une des filles que notre famille a parrainée via Compassion. J'ai été battue à fond en jouant au football contre les enfants de Compassion. J'étais embarrassée. Je suis allée au siège de Compassion en Équateur, rencontrer leur directeur national. J'ai eu de nombreuses heures de conversation avec le personnel de Compassion Canada. J'ai rencontré plusieurs jeunes adultes diplômés du programme de Compassion au Brésil. Ils s'attribuent au ministère de Compassion le mérite d'avoir mis leur vie sur une trajectoire beaucoup plus forte. Alors, je suis un fan. Voici une chose que j'apprécie vraiment à propos de Compassion, c'est qu'ils disent faire en principe, ils le font réellement dans la pratique. Dans la pratique. Et ce qu'ils font dans la pratique a un impact qui transforme les enfants, les familles et les communautés. Afin de nous aider à mieux comprendre la pauvreté et à réfléchir avec des moyens d'avoir un impact tangible, j'ai invité le président de Compassion Ali à Canada, Alison Ali, à se joindre à nous. Nous sommes contents que tu sois là aujourd'hui. Tu vas t'asseoir et puis nous allons avoir une conversation. Bienvenue. Content que vous soyez là. Est-ce que tu peux nous parler de toi et pourquoi tu as choisi de travailler pour Compassion? Oui. Je vais être ces personnes ordinaires. La première, je suis une disciple de Jésus. J'ai été élevée dans une famille chrétienne mennonite. Je suis une femme mariée à Tommy pour 20 ans, depuis 20 ans. J'ai deux filles de 13 ans et de 11 ans. Je suis quelqu'un qui continue à apprendre. J'aime grandir dans ma compréhension du monde. J'ai une maîtrise en leadership mondial, développement international de Fuller Théologie Séminaire et une maîtrise en administration des affaires. Je suis une leader. Et ça fait 10 ans que je travaille pour Compassion Canada et je suis le leader de cette organisation, la leader de cette organisation depuis 3 ans. Et c'est quelque chose, un aperçu dans mon histoire, c'est que j'ai travaillé dans les finances, dans l'investissement et quand j'avais eu mes enfants, Dieu a ouvert mes yeux pour que je puisse voir la réalité, les besoins des enfants. Et je reconnais que c'était... J'étais d'abord concentré sur mes enfants et puis il y a eu ces changements que Dieu avait planté, inversé dans mon cœur. Qui dit à ceux que tu as donné plus, il leur sera demandé plus. Et nous avons reconnu qu'en tant que famille, nous sommes Canadiens et beaucoup d'entre nous ont reçu beaucoup, pas seulement les finances, mais le temps, les privilèges, les relations et la voix. Et nous sentions que Dieu nous appelait à le joindre dans sa mission. Comme Jean a dit, dans la vie ordinaire de chaque jour et se joindre à Dieu. Et ça a un impact dans nos familles. Et j'avais commencé par à prendre soin d'un garçon en Équateur, et puis sa vie changeait, et puis nos vies commençaient aussi à changer. Et la foi avait été fortifiée à travers ces petits garçons. Ce que je pouvais jamais imaginer, c'est que c'était cette relation avec ces garçons qui a permis que je laisse ma carrière pour aller à Compassion. Et ce que je veux pas que vous, ce que je veux pas que vous puissiez croire, c'est que quand vous allez sponsoriser un enfant, vous allez devenir président de Compassion. Quand je pense au mot pauvreté, je pense d'abord à l'argent. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent vivent dans la pauvreté. Mais comme j'ai été autour de Compassion, je vous ai entendu parler de la pauvreté avec une définition plus large. C'est quoi la pauvreté? Et il y a beaucoup d'expressions quand on parle de la pauvreté. Quand vous parlez de Nord-Américains, c'est quoi la pauvreté? Souvent, on parle des aspects physiques de la pauvreté, un manque de matériel, un manque de ressources, un manque d'argent, de logement ou de nourriture. Mais quand on leur demande la pauvreté extrême, ils vont dire c'est la sensation de ne pas se sentir sans pouvoir, manque de liberté, manque d'accès. C'est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a les réalités économiques, mais c'est un problème psychologique qui peut être spirituel, qui a tendance, le brisement, qui a une vue. Quand on voit la création, on voit que Dieu a créé le monde. La pauvreté n'existait pas et ne pouvait même pas exister. Adam et Ève avaient cette relation parfaite avec Dieu et les uns les autres. Et ils comprenaient qu'ils étaient enfants de Dieu et leur vocation, prendre soin du jardin d'Éden et cet accomplissement. Et à cause de cela, ils avaient expérimenté la suffisance, la paix, l'harmonie, l'harmonie, toutes ces bonnes réalités d'amour. Et on sait que le péché est entré et puis les choses ont changé. Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer à quoi cela ressemble, les ramifications. On parle de ces relations brisées. Et il y a le blâme qui est venu, et puis il y a la fracture dans les relations humaines. Et la seconde chose, c'est que la relation était aussi personnelle, était brisée. Et en plus, Dieu avait maudit la terre et les choses sont devenues difficiles. Et ces choses ont amené tous les problèmes qui ont suivi. Et c'est important parce que ces relations, les relations brisées avec Dieu, avec soi-même, avec les autres et avec la création autour de nous, c'était les blocs qui ont construit toutes les activités humaines. Et il y a eu ces effets qui ont suivi dans notre système. Restez avec maintenant, les problèmes politiques, économiques, sociaux. Même les systèmes, les institutions de l'Église. Et la pauvreté, je vais suggérer que c'est les gens brisés, dans une relation brisée, construisant un monde brisé, dans un système brisé, où non seulement la pauvreté extrême peut seulement exister, mais elle est soutenue. Et voilà ce qui est important dans notre perspective de compassion. C'est que nous disons poser le contraire de la pauvreté n'est pas la richesse, mais c'est la suffisance. Si on comprend la pauvreté comme c'est quelque chose de multifacette, et on peut voir la pauvreté dans sa propre vie autour de soi, et être loin de Dieu, ça fait un complexe divin ou faible estime de soi. Et ce serait la façon dont se manifeste l'abus, l'exploitation, le racisme. Ce serait comment nos relations brisées avec la création qui peuvent perpétuer le matérialisme et beaucoup de choses. Et si on y va, la pauvreté est une réalité économique de façon plus simple. Mais si on devrait reconnaître et définir la pauvreté dans sa globalité que je viens d'expliquer, on pourrait comprendre la globalité, le problème global. Et la réponse, c'est la solution globale de Dieu. Et c'est comme ça que nous pensons. Et compassion se concentre sur les enfants. Et ce que vous pouvez nous dire, certaines réalités que les enfants font face à ce monde. Tu as dit certains points importants avec certaines statistiques. Ce qui est important de comprendre, c'est que les dernières années, beaucoup de choses se sont. Mais le problème social et économique qui ont suivi la COVID, elles sont venues à aggraver aussi ces problèmes. Dans les 2 dernières années, les gens qui vivaient dans la extrême pauvreté a augmenté de 150 millions de personnes. C'est 4 fois la population du Canada, des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Alors qu'il est difficile, extrêmement difficile de connaître des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté, mais on sait que ça, c'est des nombres qui continuent à augmenter. Voilà ce qui est important ici, c'est que les enfants sont disproportionnellement impactés par ces problèmes. Il y a une vulnérabilité qui demande que les enfants sont tellement vulnérables qu'ils demandent une certaine attention et beaucoup de soins autour d'eux. Il y a des problèmes de vie problèmes de violence, d'insécurité qui sont récurrents. Aujourd'hui, il y a 6 réalités qui sont dans le monde que nous pouvons appeler la protection des enfants. Je vais le mentionner rapidement pour que vous puissiez avoir une perspective. Il y a le manque d'éducation pour les enfants. L'éducation est une indication importante. Manque, si tu n'es pas obligé d'avoir une éducation, tu n'es pas capable d'avoir un emploi, tu n'es pas capable d'avoir un revenu. Et ça veut dire que tes enfants ne pourront pas aller à l'école et ça va se perpétuer à travers les générations. Ça, c'est le premier problème. C'est que il y a l'exposition des conflits. Beaucoup de pays ont des violents conflits et cela a augmenté dans les 30 dernières années. Et les nombres des enfants qui sont... Si vous comprenez les enfants qui souffrent le plus, il y en a aussi qui souffrent de violence. Et puis il y a l'environnement vulnérable. 1 million d'enfants à travers le monde qui vivent dans des pays ou des communautés où il y a un grand risque des tremblements de terre, des sécheresses, et ces choses s'aggravent dans les pays où il y a la pauvreté. Et puis, il y a les déplacements à travers le monde. Les déplacements, c'est quand tu es obligé d'aller loin de là où tu habites. Et il y a qui suit avec différentes formes d'exploitation, des persécutions, des conflits et des violences. Le monde aujourd'hui, les enfants déplacés, ils sont en plus grand nombre. Il y a aussi le trafic des enfants. Il y a une corrélation étant dans la pauvreté extrême avec le trafic des enfants. Et le trafic, c'est quoi? C'est le recrutement, le transfert des enfants, recevoir les enfants dans le but de les exploiter. Il y a des dommages, il y a des problèmes, ça cause des problèmes sérieux. Et puis, un autre problème, c'est l'insécurité alimentaire. Comment cela ça se fait voir dans les dernières années? Il y a eu une insécurité alimentaire qui a triplé. Leur problème devient beaucoup de personnes qui, à travers le monde, qui expérimentent l'insécurité alimentaire a triplé. COVID a apporté beaucoup de milliers d'enfants de mourir de faim à travers le monde, chaque mois. Et la combinaison de toutes ces choses que je viens de dire, les problèmes géopolitiques, sociaux, économiques, environnementaux, ça apporte ce que nous appelons la crise mondiale d'alimentation. Et il y a un risque de famine à travers le monde. Et le point essentiel, c'est que il y a un besoin aujourd'hui qui est plus que jamais avant. Vous avez apporté certaines vérités. Et quelle est l'approche de Compassion face à ces défis? Compassion est une organisation mondiale de développement de l'enfant qui existe pour libérer définitivement les enfants de toute forme de pauvreté au nom de Jésus et de voir épanouir leur potentiel donné par Dieu. Et certaines choses que nous devons comprendre, comment on fait pour combattre ces réalités, c'est que nous sommes d'abord centrés sur Christ. Tout ce que nous disons, nous dirons que nous sommes obligés par l'Évangile à aimer, à servir les plus vulnérables, obligés par la parole de partager non seulement en parole, mais en action aussi. En faisant cela, en démontrant la bonne nouvelle de Jésus, en proclamant la bonne parole de Jésus dans leur vie, de ses enfants. Pour rentrer en arrière sur ce que j'ai parlé de la relation de brisement de nos relations à travers le monde, nous savons que quand c'était arrivé, Dieu avait un plan. Et c'était la vie. Il y avait la mort, la vie et puis la résurrection. Et Jésus est venu pour restaurer notre relation avec lui. Avec Dieu aussi, mais aussi avec les gens autour de nous. Il est venu reconstruire ce qui était brisé, restaurer ce qui était perdu, réconcilier toutes choses et tout ce qui était mauvais dans ce monde. Alors nous reconnaissons que c'est là dans la vie de tous les jours que la pauvreté dit à l'enfant que tu n'as pas d'importance, tu n'as pas de valeur. Pour nous, c'est aimer, c'est quelque chose de stratégique qu'on peut faire pour aider un enfant qui vit dans la pauvreté. C'est de les introduire au Père éternel, qu'ils sachent qu'ils ont été créés à son image, qu'ils ont une dignité, qu'ils sont aimés, que Dieu est avec eux et ça c'est une chose qu'ils transforment quand ils ont cette révélation. Et savoir qu'un jour, il va essuyer les larmes, il va enlever la mort et toutes les peines. Et tout cela partira pour toujours. Et la centralité de Jésus est une grande part dans notre organisation. Deuxième point. Nous sommes conduits à travers les églises. Et comment on va les faire? C'est que nous savons que l'église a été ordonnée par Dieu pour apporter la guérison. Alors nous voulons travailler avec les églises pour arriver à ces objectifs. Et il y a beaucoup de raisons à cause de l'église, la proximité avec les enfants qui sont vulnérables à travers le monde. Ils étaient là avant l'église, ils sont là aujourd'hui et ils seront là. Et on peut travailler avec eux, ils ont la capacité, ils ont les ressources, les infrastructures, et ils ont les, c'est qu'on peut dire, la crédibilité dans la communauté. Et travaillant avec les églises, c'est une grande part de ce que nous faisons dans notre organisation. Et le troisième point qui ne serait pas une surprise, c'est que nous sommes focalisés sur l'enfant. Notre concentration de développement global à long terme des enfants et c'est qu'ils puissent grandir dans la grâce, dans la stature. On développe les enfants spirituellement, socio-émotionnellement, spirituellement. Et on prend soin de leur famille, de leur communauté. On se rassure qu'ils ont l'eau, la sanitation. Et s'il y a des déserts, des désastres, et on prend soin de tout cela pour voir une solution globale. Encore une fois, encore, nous savons que Dieu transforme les vies à travers le monde, à travers compassion, et on a vu comment les enfants changent et les familles changent, comment l'Église change aussi et comment les communautés changent. Et nous croyons que beaucoup des changements des communautés peuvent changer toutes des nations entières. Une des opportunités que nous avons comme Église, c'est de sponsoriser les enfants. Et on va parler de cela un peu plus tard. C'est quoi comment on fait le sponsor des enfants et pourquoi c'est important? Simplement, vous pouvez penser, c'est ce qui permet beaucoup de choses que je viens de dire. Le sponsor de l'enfant, ça assure qu'il soit connu, qu'il soit aimé, qu'il soit protégé par les membres de sa propre communauté, qui connaît leur nom, là où ils habitent, et ils ont une relation avec eux. Et ça permet à ce que leur, pas seulement que leurs besoins soient, ça permet à ce que d'influencer positivement la vie de ses enfants. Mais le sponsor, c'est quand tu dis oui à un enfant, cela veut dire que tu fais partie d'une toile de relations qui est travers cet enfant, qui permet son développement. Tu fais partie du programme de compassion. Tu fais partie de cette toile où il y a des tuteurs, des enseignants, des mentors, des personnes de l'Église, partenaires de première ligne. Tu ne fais pas ça isolé. Ça, c'est important que vous le sachiez, parce que beaucoup de choses se passent. C'est reconnaître que nous devons corriger certains domaines. On pense qu'on va aller sauver ses enfants. Il y a les églises locales et la personne de Jésus, et c'est lui qui est le héros de cette histoire. Mais quand toi, tu te joins, tu joues juste un rôle critique dans la connexion de cette toile. Et voilà quel est votre rôle, et c'est pourquoi c'est important. Tu as l'opportunité d'investir spirituellement, c'est significatif. Tu priais pour eux et partager la parole biblique, les versets bibliques. Tu investes socialement, connaître leurs dons, leurs passions, leur vie, les encourager à poursuivre leur passion. Et bien sûr, vous investissez pratiquement. L'argent que vous donnez, quand vous sponsorisez un enfant, ça va directement dans les églises partenaires. Et ça va spécifiquement à cet enfant. Ça va directement à cet enfant. Ça ne va pas ailleurs. Pour qu'il soit développé dans quatre domaines, qu'il puisse avoir la formation formelle et informelle. Et l'éducation, c'est la première qui permet d'éviter, de contrer le trafic. Ça assure l'hygiène, les soins, l'alimentation. J'ai parlé de la crise alimentaire à travers le monde et Compassion a donné 23 millions de paquets pour d'aliments aux enfants pour les aider. Ça assure qu'ils soient des disciples, qu'ils soient enseignés. Il y a des structures sociales. Et j'ai aimé ce que tu as dit, John. Mais l'histoire de compassion, c'est même si tu ne seras pas capable de changer tout le monde, mais tu peux changer un enfant et ça aura un impact. Je voudrais que vous tourniez avec moi Ésaïe 61, versets 1 à 3. C'est le passage dans lequel Jésus était en train de coter Luc, qui dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, et toutes ces choses. Et ce que je veux que nous puissions faire ici, c'est que nous puissions regarder le verset qui va juste à côté de Luc, dans lequel Jésus est en train de dire. Le verset 3, Jésus dit: Je veux parler de la transformation qui peut arriver quand Jésus est au milieu de tout ça. La première chose est celle-ci. Les gens mettaient les cendres sur leur tête. Et qu'est-ce que Jésus apporte? La guérison. Il donne une nouvelle identité. C'est ça la transformation. L'autre chose, c'est que l'huile de joie au lieu de deuil. Le deuil à la joie. Dans la Bible, il y a des exemples de gens qui ont été oints de l'huile. Mais c'est aussi un moment de guérison et aussi un moment de commission. C'est une bonne chose. Il y a la célébration au lieu de le garnement. Qu'est-ce que cela peut dire? Et je me suis réveillé avec cette phrase et les habits de fête au lieu des habits de deuil. Et j'ai cherché sur Spotify et YouTube. Apporte certaines chansons qui m'apportent dans la présence de Jésus. Savez-vous, quand j'ai mis les habits de louange, ma perspective de la journée a changé. Significatif de l'anxiété à l'espoir. Et au verset 3, il dit qu'il soit appelé les térubins de la justice. Béni, c'est lui qui ne marche pas dans les conseils des méchants, qui s'assoit pas avec les moqueurs, mais qui se réjouit dans la loi du Seigneur. Alors, il est comme qui médite la parole de Dieu. Il est comme un arbre qui est planté au bord de l'eau. Il a ses fruits à chaque saison. Et c'est quoi le résultat? Qui parle de que Dieu soit glorifié. Et ce que Jésus fait glorifie Dieu. Et c'est ça le but de notre vie. Être les pieds, les mains et les pieds de Jésus. Et on apporte la gloire à Dieu. L'intervention de Jésus à son peuple parle de. À cause, nous faisons des choses tangibles. À cause de la parole, la bonne parole, ça apporte une vraie transformation peut se faire. Et cette parole parle des gens qui sont enlevés de la pauvreté, de brisement, mais à cause du fait que Jésus est au milieu de tout ça, il peut y avoir une transformation spéciale. Je vais attirer votre attention, que vous puissiez regarder et voir. Comment ces moments étaient magiques quand j'ai su que j'avais un sponsor. Ça a changé toute ma vie, littéralement. Je suis Erika, Eric. Mon père était mort quand j'avais 8 ans. Quand mon père était mort, ça avait toute l'histoire avait changé. Les familles de sa famille, ils sont venus tout prendre. Nous étions abandonnés avec rien. La vie n'était plus la même comme avant. On n'avait plus accès à la santé, à l'éducation. Il n'y avait aucune opportunité. Tout était parti. Un homme qui travaillait avec Compassion, comme volontaire, il a pris le contact, moi et ma soeur, et il a demandé à ma mère qu'on soit enregistré à ce programme de compassion. Quand j'ai su que j'avais un sponsor, c'était un point important pour moi. Avoir un sponsor, ça a changé tout. J'avais la vie, je suis aimé. Je viens de finir l'université. Elle est venue, elle m'a surpris. Est-ce que tu veux ce désir de prendre soin de toi? Quelqu'un qui penserait à toi à la fin? Actuellement, nous avons un message de Dorothée. Et nous voudrons le partager avec. Bonjour Eric, je suis content de savoir l'impact que ce que j'avais fait pour toi. Et depuis que j'ai commencé à te sponsoriser, depuis que tu avais 8 ans, chaque fois que je pense à Dorothée, je pense à une personne qui a changé le monde, qui sponsorisé un enfant à travers Compassion, c'est donner une opportunité de vivre. C'est plus qu'envoyer un peu d'argent et de lettres. C'est donner la vie et faire cette vie, donner de la valeur à cette vie, à une importance. Elle pleure chaque fois qu'elle voit cette vidéo. C'est le week-end d'Action des Grâces. Nous sommes reconnaissants. Jésus nous donne la vie. Une chose pour laquelle nous pouvons être reconnaissants, c'est que, étant enfants de Dieu, Dieu nous demande d'être ses vice-rois, vivre pour ce qu'il nous demande de faire. Une des choses qu'il nous demande de faire, c'est que nous puissions nous lever avec ceux qui sont oppressés, ceux qui sont sans aide, sans espoir. J'ai mentionné tout à l'heure que j'avais eu l'opportunité de visiter un des enfants que ma famille a eu l'opportunité de sponsoriser au Brésil. Quand je l'ai rencontré, Béatrice, et elle veut devenir docteur. Mais sa famille est pauvre, vivant avec moins de 2 dollars par jour. Et quand je suis allé la rencontrer, on ne voulait pas permettre que je ne puisse pas aller chez eux parce que quelqu'un avait été assassiné dans leur quartier. Avec Anna et sa famille vivent dans les dangers, dans la pauvreté. Vous pouvez imaginer comment apporter l'espoir, peut-être quelque chose d'important. J'ai passé juste quelques heures avec sa maman et avec elle, avec sa maman. Vous savez quoi? Ils avaient de l'espoir. Ils avaient de l'espoir parce qu'ils ont été introduits à Jésus. Parce que, à cause des soins qu'ils recevaient à travers compassion, la nourriture, la sécurité, apprendre à propos de Dieu, l'opportunité de développer développer J'oublierai pas ce qu'elle m'a dit, ce que Anna m'a dit à travers son interprète qui disait doucement avec sa voix. Elle a dit merci beaucoup pour ta famille pour me sponsoriser afin que je sois faire partie de Compassion. Merci d'être venu nous visiter. Je vais prier pour toi et ta famille chaque jour. Alors, d'une certaine façon, même si nous sommes séparés par la distance, par la culture et autre chose, et l'âge, pour différentes raisons, nous avons eu l'opportunité d'impacter. Je ne sais pas, mais je pleure, mais nous avons eu l'opportunité d'avoir un impact important, qui est un trésor, quelque chose de. Je suis reconnaissant pour ça. Il y a une opportunité pour vous de répondre de la même façon si le Seigneur vous demande à le faire. Nous avons des tables à l'extérieur et vous pouvez aller si vous pouvez le faire. C'est 47 $ par mois. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, on avait un temps de dimanche pour encourager les gens de sponsoriser les familles, les enfants. Aujourd'hui, on a la même opportunité pour la Thaïlande et d'autres pays à travers le monde. Il y a une façon, vous pouvez vous enregistrer pour sponsoriser. Vous pouvez le faire all et ceux qui regardent en ligne, vous pouvez scanner ce code. Laissez-moi être plus clair comme je peux être. Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que le Seigneur puisse nous pousser, nous activer et que nous puissions vivre cette cœur de compassion. Qu'on soit en mission avec Jésus, que dans chaque jour, partout, Dieu nous invite à prendre un pas tangible, de voir la justice s'accomplir, de voir les gens expérimenter la puissance de Dieu dans l'amour et dans sponsoriser un enfant et une de ses opportunités, une des façons de se porter. Ma prière pour nous est ce qui est important. C'est que le Seigneur puisse nous activer, le Seigneur puisse nous appeler à le faire. Alors, comme je parlais, peut-être que Dieu a touché ton cœur pour le faire. Merveilleux, tu peux le faire. Si Dieu te demande, je t'encourage à le faire. Et c'est une. Peut-être Dieu a parlé différemment. Peut-être il y a quelque chose qui t'a touché. Quelque chose d'important dans le monde. C'est une réponse à ma prière, que le Seigneur puisse nous bouger, qu'il puisse nous activer, nous donner un peu plus de son cœur. Alors, si Dieu est en train de mettre quelque chose dans ton cœur, vas-y. Si tu as besoin d'y cerner, je serai content. Il y a beaucoup d'autres personnes qui seront contentes de marcher avec toi. Une chose. Dieu est glorifié quand nous devenons les mains et les pieds de Jésus. Amen. Nous allons avoir des questions de réflexion. On va chanter, adorer. Alison, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Questions de réflexion.